vie paysanne.
Quand je vois tous ces Parisiens se crever, gagner trois fois rien, habitant des cages à lapins, je me dis que c'est plaisant d'être né paysan. Quand il pleut, je reste au dodo, à l'ombre quand il fait trop chaud.
Chers auditeurs, bonjour. Transistor et Transmission ont concocté pour vous une série radiophonique inédite. Comme vous le savez, nos deux radios sont partenaires depuis un an. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes retrouvés à Blois du 18 au 21 octobre, à l'occasion de la 15e édition des Rendez-vous de l'Histoire.
En effet, Fabien, ce festival d'histoire était consacré au thème des paysans. Ah, ces chers paysans. Mais qui sont-ils vraiment? Et surtout, qui furent-ils? Profitant de la présence des meilleurs historiens réunis dans cette charmante ville du Loir-et-Cher, nous avons tenté de reconstituer des vies paysannes, ou plutôt des fragments de vie.
Maurice Sartre, Laurent Feller, Jean-Marc Morisseau, Philippe Madeline, Ronald Dubcher, tous se sont prêtés au jeu et ont ressuscité 6 paysans dont ils avaient croisé la route dans les archives.
Enfin, nous avons eu l'honneur d'interroger Emmanuel Leroy-Ladurie, qui nous a raconté la vie de son père, Jacques, grand propriétaire normand, devenu ministre de l'Agriculture sous Pétain.
Mais avant d'en venir là, commençons par nous plonger dans l'Antiquité grecque avec comme guide Maurice Sartre, professeur émérite à l'Université de Tours. Il va nous tirer le portrait du paysan athénien du 5e siècle, rustre et soucieux de sa terre et de son temps.
Je crois que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que la masse des Athéniens sont des paysans. On a toujours l'image d'Athènes comme une grande ville, et c'est vrai que c'est une grande ville par rapport à l'ensemble du monde grec. Les cités grecques, ce sont des cités de paysans. Le paysan athénien, lui, comme c'est un grand territoire, les paysans athéniens sont répartis et habitent des villages, de nombreux villages qui sont sur le territoire de l'Attique. Et on sait qu'ils sont très attachés à ce village. Le paysan, c'est un homme qui est attaché à un lieu, non pas parce qu'il y travaille simplement, mais parce qu'il y a ses ancêtres, les tombeaux de sa famille, et il y a une sorte d'attachement viscéral à un terroir. Et ça, on le voit très bien dans les textes, notamment lorsqu'au début de la guerre du Péloponnèse, Périclès fait rentrer tous les paysans à Athènes. Il les oblige à quitter leur campagne et à venir à Athènes pour les mettre à l'abri des incursions des Spartiates. Ils obéissent, bien entendu. Mais alors, ils viennent avec des bêtes, parce que dans l'espace urbain, il y a des champs encore, il y a des espaces vides, il y a des espaces où on peut s'organiser. Alors, ils viennent, et puis ils viennent avec leurs outils, parce que les outils, notamment tout ce qui est métallique, c'est cher, donc on va les mettre à l'abri. Et ils viennent aussi avec ce qui est en bois. Parfois, on démontait les toits des maisons, parce que le bois, c'est un produit rare en pays méditerranéen. Et puis, on les voit quitter ses campagnes, et Thucydide le dit très très bien, il dit ils étaient abattus d'être obligés de venir en ville, non seulement dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas, mais de laisser le pays de leurs ancêtres, leurs terres, les lieux où ils travaillaient, où ils se trouvaient bien en quelque sorte. On voit bien cet attachement au pays.
Tous nos acquis s'écrasent sous, j'ai choisi la clé des champs, et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Seul dans une maison avec la vue et ma raison, je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison, je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Alors, que sont ces paysans? Pour la plupart d'entre eux, sont des petits propriétaires qui possèdent des terres, sans doute qui travaillent ces terres avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants éventuellement, et quelques esclaves, pas beaucoup d'esclaves. On est dans une société esclavagiste, bien entendu, mais il ne faut pas imaginer qu'il y ait partout des masses d'esclaves. On n'est pas dans les grandes propriétés romaines de la fin de la République, où là, effectivement, on peut avoir des gens qui possèdent 2000, 3000, 5000 esclaves. Les gens à Athènes qui possèdent beaucoup d'esclaves sont des exploitants de mines, par exemple, ne sont pas du tout des paysans. Le paysan, lui, il a 1, 2, 3 esclaves, peut-être une ou deux servantes esclaves aussi pour la maison, mais pas davantage. sont donc des petits propriétaires qui possèdent des petits domaines qui leur permettent de vivre. Les cultures qu'ils pratiquent, on le voit dans les textes aussi, parce qu'ils le disent, c'est essentiellement, ils sèment du blé, mais ça rapporte pas beaucoup, mais bon, il faut en avoir pour se nourrir quand même. Et Athènes s'est tournée vers une agriculture quand même un peu spéculative, c'est-à-dire de la vigne et l'olivier. Le triptyque de l'agriculture méditerranéenne, hein. Céréales, olivier, vigne. Mais il y a aussi les légumes, des cultures arbustives, des fruits, etc. Et puis, il ne faut pas l'oublier, aussi de l'élevage, mais surtout sur les marges du territoire. C'est plutôt sur les marges, dans les montagnes, qu'on élève peu de vaches, peu de bovins, mais des chèvres et des moutons. Alors, ce paysan, il a une vie très dure. Le paysan, c'est un lève-tôt. Par exemple, lorsqu'Aristophane montre un paysan qui se rend à l'assemblée du peuple, il le fait arriver avant tout le monde. D'abord parce que lui, il vient de loin, donc il se lève de bonne heure, il marche de nuit, et il arrive à l'Agora à Athènes, ou à la Pnyx, puisque c'est là que se rassemble l'assemblée du peuple, alors qu'il n'y a encore personne. Alors il râle. Et le paysan est là, alors il dit, bon, moi je suis là, et puis évidemment, les autres sont pas là. Les gens de la ville, ils sont pas là. En gros, il leur reproche de faire presque la grasse matinée, alors que le jour se lève à peine. Alors il dit, bon, ben, moi, il faut que je tue le temps, alors je suis là. Alors je m'arrache les poils du nez, je me cure les dents, les ongles, je pète, dit ça. J'essaye de tuer le temps. Et puis je pense quand même à la terre que j'ai laissée, à mes bêtes, etc. Il y a donc, si vous voulez, cette image un peu du rustre que l'on trouve par exemple beaucoup aussi exprimée dans le portrait du paysan que fait Théophraste. Vous savez que Théophraste, alors il écrit un peu plus tard, c'est un siècle plus tard, et Théophraste fait un portrait du paysan qui est presque effrayant en disant le paysan, c'est un gros balourd qui ne comprend rien à rien et qui n'a aucune manière de vivre. Alors là aussi, il faut voir que ce sont des textes qui sont à charge d'une certaine manière. Donc on n'est pas obligé de les prendre au pied de la lettre. Mais que dit Théophraste ? Il dit finalement le paysan, d'abord, c'est un être bizarre qui ne pense guère qu'au travail, à son bétail et à manger. Et puis éventuellement, à essayer de sauter la boulangère, enfin une de ses esclaves qui est chargée de faire le pain. Et il donne deux exemples de cette grossièreté du paysan. Il dit le paysan, lorsqu'il vient à Athènes, il voit même pas qu'il est dans une belle ville comme Athènes avec des monuments magnifiques. Mais en revanche, s'il croise un âne ou un bœuf, ou un cheval, ou un mulet qui lui paraît beau, alors là, il tombe en admiration. Donc, c'est pour montrer la grossièreté du paysan. Et puis, alors, l'autre trait de caractère qui montre du paysan, qui montre à quel point il est personnage grossier, c'est que ce paysan, eh bien, par exemple, si quelqu'un sonne à sa porte, il va ouvrir lui-même, en tenant son chien par la gueule. On voit qu'il y a, s'exprime là ce que j'appellerais aujourd'hui, ce qu'on appellerait volontiers, une sorte de racisme social. Quelqu'un qui va lui-même ouvrir la porte. Alors qu'il est, même le paysan qui est un esclave. Et un autre trait, j'en rajoute un troisième, j'en ai annoncé deux, mais j'en ai trois. C'est par exemple que le paysan, il est capable de manger pendant qu'il va sortir le fumier de ses chèvres. C'est pour dire comme c'est un être absolument grossier.
Un petit âne faisait des histoires, refusant de tirer jusqu'à la foire. La charrette du vieux père Grégoire, pleine de légumes, de beaux fruits, qu'il espérait vendre un bon prix avant de retourner chez lui. Mais il devait se dépêcher car la foire était commencée. Et ce beau plan restait en plan, car le baudet lui s'en moquait. Le paysan s'égosillait. Et allez, 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 marche. Rien n'y change.
Cette image du paysan, elle est adoucie, elle est même renversée d'une certaine manière par d'autres traits que décrit le même Aristophane et qui sont ensuite repris, amplifiés, embellis par toute une tradition philosophique, celle de Platon et d'Aristote. Aristophane, dans d'autres pièces, montre que le paysan, bien sûr, c'est cet être frustre, mais en même temps, c'est un vrai travailleur et c'est un homme qui est épris de paix et donc qui rejoint l'idéal politique d'Aristophane. Dans une autre pièce, qui est La Paix, tout simplement, il nous montre les paysans qui vont carrément se mobiliser pour aller chercher la paix. Alors, c'est une allégorie, bien entendu. Et alors, ils y vont d'abord très nombreux, ils y vont avec des Mégariens, des Corinthiens, des Spartiates, tous les paysans des cités réunis en quelque sorte, enfin, ou tous les habitants de la cité. Et puis, à un moment, ils n'arrivent pas parce que chacun tient de son côté, donc ça ne marche pas. Donc, il y en a un qui dit, écoutez, les autres, fichez le camp, nous les paysans, on va s'en occuper, vous allez voir que la paix, elle va revenir. Et ils tirent tous, évidemment, du même côté. Donc, le paysan, c'est un homme épris de paix. D'ailleurs, le paysan qui est en cause dans cette pièce dit, je ne cite pas mot à mot, mais c'est quand même ça, il dit, ne croyez pas que nous, on aime les Spartiates. On veut pas la paix parce que nous, les Spartiates ou les Mégariens, on les déteste aussi, autant que vous. Parce que moi, ils ont coupé mes oliviers. Alors, on a là tout cet attachement à la terre qui est souligné. Mais, d'un autre côté, on peut pas faire la guerre constamment parce que pour nous, les paysans, c'est insupportable. Et donc, on va faire la paix. Donc, on voit cet aspect-là. Cet aspect du paysan citoyen pacifiste, mais en même temps bon guerrier, parce qu'il vit au grand air, c'est un homme qui est pas rabougri parce qu'il est là sur un établi ou en train de creuser des sabots, de faire des galoches ou je ne sais quoi, dans une arrière-boutique obscure, à la différence de l'artisan. Ça, c'est Xénophon qui donne cette description. Le paysan, au contraire, c'est un homme qui vit au grand air, donc c'est un costaud et ça fait un excellent soldat. De là, cette autre image qu'on a des paysans, qui est inverse de la première, mais qui est dans le fond complémentaire, c'est que c'est presque le citoyen idéal. Contrairement à ce que disent les détracteurs de la politique athénienne, les paysans pèsent d'un poids énorme. D'abord parce qu'ils sont la majorité. Mais ce qui est vrai, probablement, c'est que les paysans, ce sont des gens qui travaillent dur et qui travaillent tous les jours. Et qui habitent en général loin d'Athènes. Donc ils viennent peu aux réunions de l'Assemblée. Et donc il est vraisemblable que sur les 30 000 citoyens athéniens, vous savez qu'il y a 30 000 citoyens athéniens, mais que le lieu où on réunit l'Assemblée du peuple n'a jamais pu en contenir plus de 6 000. Donc ça veut dire qu'heureusement, ils ne venaient pas tous. Or, qui ne venaient pas? Essentiellement ceux qui travaillaient à l'extérieur et qui ne pouvaient pas perdre une journée de travail. L'Assemblée se réunit quand même 40 fois par an au minimum. Hein? Le résultat, c'est que c'est aussi pour cette mauvaise raison, on va dire, que des penseurs politiques comme Platon ou Aristote font l'éloge d'une démocratie de paysans. Et Aristote, sans aucune pudeur, dit même « Le paysan est le meilleur des citoyens parce que comme il a trop de travail, il n'a pas de loisirs et donc il n'a pas le temps de venir perdre son temps à des réunions. » Donc en gros, le bon citoyen, c'est celui qui s'occuperait pas de politique. Donc à la fois, les paysans sont les plus nombreux, c'est vrai, mais ils sont sûrement pas les plus influents parce que ce sont pas eux qui sont les plus nombreux à l'Assemblée. Sont à l'Assemblée les gens surtout qui habitent Athènes. Alors contrairement à ce que dit Aristote ou Platon, ça ne veut pas dire que ce sont tous des désœuvrés. Ce sont parfois des artisans, mais des artisans qui travaillent avec des esclaves. Les esclaves continuent à travailler et les citoyens, eux, ils vont à l'Assemblée.
Madame la bonne fermière s'en allait pétrir son pain. Dans la cour de la ferme, elle dit de bon matin.
Qui veut bien venir? Est-ce que vous pouvez nous parler de la femme du paysan?
C'est un bon sujet dont on peut difficilement parler parce que les Grecs considéraient que les femmes honnêtes, on n'en parlait pas. Donc le résultat, c'est qu'elles disparaissent à peu près de la documentation. C'est pas la mauvaise volonté d'historiens machistes, auxquels j'appartiens forcément, qui fait qu'on ne parle pas tellement des femmes de paysans, mais c'est que simplement on n'en parle pas. Alors, on a quand même quelques renseignements. D'abord, il y a des femmes esclaves dans les campagnes. Mais je dirais que les femmes esclaves, elles sont esclaves. Elles sont pas femmes. Donc, laissons les femmes esclaves de côté. Ce qu'on connaît le mieux, c'est plutôt la femme du propriétaire foncier, parce qu'il y a un texte très célèbre qui est plus un exercice d'école. C'est le fameux économique de Xénophon, où il décrit le fonctionnement d'un domaine agricole. Et on voit que la femme est vouée essentiellement à la gestion des réserves, à la répartition des tâches entre les servantes, à la conservation des biens, en quelque sorte, du ménage. Mais c'est une image qui s'applique à une femme de haut rang. Pour la femme du paysan, eh ben, je pense qu'elle devait sortir et elle devait travailler avec son mari comme il utilisait ses enfants dès qu'ils étaient en âge de garder les chèvres ou les moutons. Je crois que le problème, c'est qu'on n'a pas de représentation figurée et on n'a pas de texte qui nous le montre. Ce qu'on voit, c'est par exemple si les paysans dans certaines pièces d'Aristophane, les paysans qui se réjouissent, par exemple, du retour de la paix et qui vont faire la fête, ils vont boire entre copains, etc. Et alors, ils disent aux femmes, fais-nous griller des pois chiches. Et puis, j'ai jamais essayé, donc je sais pas à quoi ça ressemble, mais ils font la fête en faisant griller des pois chiches. Vous voyez, c'est une fête modeste quand même. Mais la femme, alors quel est son rôle autrement? Je crois qu'on peut pas le dire, vraiment. Sinon qu'elle est associée à son mari, et à mon avis qu'elle crie au moins aussi dur, et probablement plus.
Vie paysanne.
Quand je vois tous ces Parisiens se crever, gagner trois fois rien, habitant des cages à lapins, je me dis que c'est plaisant d'être né paysan. Quand il pleut, je reste au dodo, à l'ombre quand il fait trop chaud.